Vous êtes sur RTL. Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction où Marion Calais développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine. Le 7 janvier, le petit Lucas, 13 ans, se suicidait après avoir été victime de harcèlement scolaire dans son collège des Vosges. Un enfant sur 10 en est victime. Elian a vécu ces vagues d'insultes et de haine au collège. Il témoigne aux côtés de Nora, sa fille, s'est suicidée après avoir été victime d'harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a annoncé un grand plan pour relever le niveau des élèves français. C'est le retour de la dictée tous les jours à l'école. Plus de maths et de français, une heure de soutien scolaire par jour. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'instruction française va dans le mur? Je pose toutes ces questions à une professeure des écoles. 7 otages français sont détenus en Iran, parmi eux Benjamin Brière, un simple touriste en voyage en Iran. Les autorités iraniennes le qualifient d'espion. Sa sœur Blandine Brière se confie sur RTL. Les rixes se multiplient en France. En 2011, le frère d'Adama Camara a été tué dans une bagarre entre clans rivaux. Après la mort de son petit frère, il a tenté de se venger. Il est avec nous en studio pour nous raconter son histoire sur RTL. 2,3 millions de personnes ont foulé les terres du Puy du Fou en Vendée. Un record pour l'un des parcs préférés des Français. Son patron, Nicolas Devilliers, est avec nous. Il nous présentera les ambitions folles du Puy du Fou.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Les rixes se multiplient en France. La semaine dernière, un nouveau drame a tiré dans le Val-de-Marne. Un de plus, malheureusement, un décès d'un adolescent. En 2011, Saada est décédé d'un coup de couteau à Garges-lès-Gonesse, près de Paris. Son frère Adama est avec nous en studio. Il a tenté de venger son petit frère. Bonjour Adama.
Bonjour.
Un autre drame là aussi, il avait 14 ans. Dibril a été tué le 27 novembre d'un coup de marteau à la tête lors d'un affrontement avec un autre groupe de jeunes. Deux villes se sont fait face, Coignières et Maurepas dans les Yvelines. Yann Lamotte a prodigué les premiers secours à Dibril, mais en vain, il est décédé. Il est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Yann.
Bonjour Mohamed, merci pour l'invitation.
Yann, vous êtes un ancien éducateur à Coignières. Vous organisez des galas aujourd'hui, des galas de MMA. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Lorsque je sors de la salle, Dibril est déjà au sol. Il a reçu le coup de marteau. Il y a déjà une personne ou deux personnes qui s'affairent à essayer de le ramener. On a la Croix-Rouge, on a des docteurs et on est trois ou quatre à tour de rôle à masser de Djibril. Malheureusement, au bout de 35, 40 minutes, je sais plus, ça paraissait tellement long. Enfin, le docteur a décrété que Djibril était décédé.
Ces rixes entre jeunes de deux villes, c'est arrivé souvent à Maurepas, à Coignières, Yann Lamotte?
Non, pour nous, c'est un phénomène assez épisodique. On n'habite pas dans des résidences violentes. C'est ce qui le rend encore plus dramatique. C'est-à-dire qu'on sait pas des choses auxquelles on s'attend.
À quel moment vous avez compris que c'était grave et que c'était un drame?
Nous, la soirée était terminée, les gens sortaient et c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher pour me dire que dehors, il y avait une bagarre, que des gens tiraient au mortier sur les agents de sécurité. Donc déjà, à partir de là, pour moi, c'est un drame et ça le devient encore plus à partir du moment où je vois cet enfant au sol. Pour moi, c'est de l'ordre de l'inacceptable, incompréhensible. Enfin, j'ai même pas de mots pour déterminer ce qui se passe à ce moment-là.
Vous connaissiez la famille de Dibril?
Je connais très bien le papa, oui, en effet. Je connais pas la maman, mais je connais très bien le papa. C'est quelqu'un qui est dit du coin depuis toujours. Nos enfants sont ensemble à la crèche, par exemple.
Ce drame, la mort de Dibril à Maurepas, elle résonne avec un autre drame que la France a connu la semaine dernière à Thiers, dans le Val-de-Marne, la mort d'un jeune adolescent. Noémie et Imen, deux personnes qui ont assisté au drame, elles se sont exprimées au micro d'Antoine Cavaillerou sur RTL.
Il y a un garçon, du coup, qui tombe par terre comme ça d'un coup. Et il y a tous ses amis qui sont autour de lui, qui l'attrapent. Ils essayent de lui faire les premiers secours, qu'ils appellent les pompiers et la police.
Il y a au moins 7 pompiers sur une personne en train de le réanimer. Pendant 20 minutes, il s'arrêtait pas, il réanimait, réanimait, réanimait. Et en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai vu une personne, un être humain, un être vivant. Il avait 16 ans. 16 ans, il a même pas fini son bac. Ses parents, les pauvres.
On pense dans ces cas-là aux parents, on pense à la famille. Adama Camara, vous êtes avec nous en studio. Vous êtes le frère de Saada, poignardé à mort à la gare de Garges-Charcelles dans le Val-d'Oise. C'était en 2011. Quand vous entendez cet extrait, j'imagine que cette histoire, elle résonne en vous parce que vous l'avez vécue.
C'est clair, elle résonne en moi et malheureusement, je me dis, c'est qui le prochain? Parce que c'est une réalité aujourd'hui, les rixes interquartiers, c'est pas qu'un fait divers. Pour moi, c'est un vrai phénomène de société. Il est vraiment temps aujourd'hui de mettre des choses en place pour pouvoir éradiquer clairement ce phénomène. Lorsqu'on nous appelle à 3 heures du matin, c'est pour nous dire Saada, il est mort. Et lorsqu'on arrive sur place, la dernière vision qu'on a de notre petit frère, si on le voit même pas, on voit juste un drap blanc par terre et un dispositif de police autour. Donc à cette période-là, on prend un choc. C'est un choc terrible pour toute une famille. Et donc après, faut savoir vivre avec. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Et par la suite, on a ce deuxième volet, comme je dis toujours, le moment de on veut venger notre frère.
On va en parler dans quelques secondes, mais Adama, on reste sur cette fameuse soirée. Il a été victime d'une rixe. Saada.
C'est ça, il s'est battu avec des anciens amis à lui quelques semaines avant et deux semaines après ils se sont revus, se sont battus. Ce soir-là, il y en avait un qui avait un couteau et qui l'a planté à plusieurs reprises au niveau du thorax.
Et ils l'ont tué.
Ils l'ont tué. Et là, ils nous ont tués aussi. Parce qu'on pense que ça s'arrête à la personne qui est décédée. Derrière, on oublie que c'est toute une famille qu'on détruit. Et c'est des gens qui vont... Leur vie a basculé, on devient d'autres personnes après ce moment-là.
Votre vie a basculé ce soir-là, mais elle a basculé une seconde fois le 20 août 2014.
C'est ça.
À cette date-là, racontez-nous ce qui s'est passé.
Pendant trois ans, on a ce sentiment de tristesse, ce sentiment de vengeance aussi, parce qu'on voit notre famille souffrir, on voit notre mère pleurer tous les jours, et nous aussi on a mal. Donc à un moment donné, on se dit, peut-être si j'agis, si aussi je venge la mort de mon frère, peut-être qu'on va se sentir mieux, peut-être que maman va moins pleurer. Donc j'ai décidé de passer à l'acte, de vouloir venger mon frère. Je me suis dit, les personnes qui ont tué mon frère, ils sont en détention, mais ils ont des frères aussi dehors, donc si je tue un des frères, peut-être que eux aussi vont souffrir à l'intérieur de la prison. Donc j'ai eu la bêtise de me procurer une arme. Et un jour, je suis tombé sur le grand frère en question et je lui ai tiré dessus à plusieurs reprises avec d'autres amis à eux. Et donc j'étais incarcéré.
Vous avez blessé cet homme ?
J'ai blessé cette personne, oui.
Vous ne l'avez pas tué ?
Heureusement, je ne l'ai pas tué parce que je m'en serais voulu toute ma vie. Parce qu'au fond de moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un assassin. J'ai agi parce que je me suis dit... je vais me sentir mieux, je vais faire du bien à ma famille, mais au contraire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de prendre la parole et que je mène ce combat-là. Et pourquoi j'en parle, c'est pour aussi éviter d'autres personnes. La vengeance, ça va pas ramener notre proche. Hein.
Vous avez agi seul ?
J'ai agi seul parce que c'était personne n'était au courant, ni ma famille, ni ma petite amie. Je venais d'avoir un enfant. En fait, je voulais construire une nouvelle vie.
Vous veniez d'être papa.
Je venais d'être père. C'est ça qui est le plus dramatique, c'est que je me suis dit j'ai perdu un frère. Entre temps, ma vie a basculé, j'ai changé de vie totalement. Donc j'ai même quitté la région parisienne. Mais en fait, j'étais pas soigné, j'étais pas guéri. Donc à chaque anniversaire, chaque fête de fin d'année, il nous manque toujours quelqu'un, même dans les religieuse, il y a toujours une chaise qui est vide. Et de voir cette tristesse-là dans cette famille qui augmente, ça nous fait du mal. Et quand je pensais que j'allais me sentir mieux, au final, non. Parce que même dès qu'on m'a interpellé, que j'étais en garde à vue, j'étais même pas soulagé. J'avais toujours cette douleur.
Œil pour œil, dent pour dent.
Ouais.
Vous vouliez retirer un enfant d'une famille.
Oui.
La famille qui vous a malheureusement. Retiré votre frère.
Oui.
Et ça ne vous a même pas soulagé ?
Ça ne m'a même pas soulagé, même quand j'étais en garde à vue. Ça ne m'a même pas apaisé, ne serait-ce que 30 secondes. Ça ne m'a même pas fait du bien, je n'ai même pas trouvé le plaisir.
Vous avez compris tout de suite que vous avez fait une énorme erreur, une faute ?
Une faute très grave. Et c'est pour ça que toute mon incarcération, je ne me suis jamais plaint. Même quand j'ai perdu mon père en prison, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « t'aurais pu en vouloir à l'État » parce que j'avais fait une demande de remise en liberté pour sortir le voir sous escorte parce qu'on avait appris qu'il avait un cancer. Lorsqu'ils ont refusé, trois jours après, mon père est décédé. Je ne peux pas en vouloir à l'État, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. C'est moi qui ai agi, qui a fait cet acte malheureux qui m'a conduit en détention.
Vous avez des échanges avec la famille de la personne que vous avez...
J'ai essayé d'avoir des échanges lorsque je suis sorti de détention, parce que c'est des personnes avec qui j'ai grandi.
Vous avez été condamné à 8 ans de prison.
À 8 ans de prison. Donc c'est ça qui est malheureux, c'est que j'ai essayé d'avoir des contacts avec ces personnes-là. C'est des gens qui ont grandi avec moi. J'ai mangé chez eux, ils ont mangé avec moi. Donc c'est du gâchis. Pourquoi au final ? Une histoire d'ego. Comme la plupart des rixes interquartiers. Les gens ne savent même pas pourquoi ils se battent. Des fois, j'entends, c'est pour des trafics de stupes. C'est rare. Les trafics de stupes, on connaît le mode opératoire. C'est des exécutions, soit à la Kalachnikov, soit autre. Mais là, les jeunes qui se battent, qui s'entretuent, qui mettent des coups de marteau, comme on a pu l'entendre, des coups de couteau, c'est dramatique. C'est pour représenter un quartier.
12 ans après les faits, ouais. Adama, vous vous sentez comment ? Vous avez l'air encore très ému par...
Je suis encore ému parce que je me dis on n'a pas à vivre ça. Je suis encore ému quand j'entends des mamans pleurer. J'entends des jeunes écolières comme ces deux jeunes filles qui ont pris la parole, qui sont bouleversées, comme cet éducateur qui a prodigué les premiers soins. À quel moment ça va s'arrêter ? C'est bien pour ça qu'on nous, on a en 2021, on a fait une série qui s'appelle Rix, où on parlait de ce phénomène de Rix, où on a été rencontrer ces familles-là qui puissent avoir un parler, avoir ce témoignage et avoir aussi des jeunes blessés. Parce que moi, j'appelle ça, c'est des guerres de quartier.
Yann Lamotte, à Maurepas, depuis le drame que vous avez connu, vous menez des actions de terrain pour lutter contre la violence dans les quartiers populaires. Et là aussi, vous dites que à la base, c'est des quartiers plutôt calmes, qu'il n'y a pas de guerre dans vos quartiers, mais qu'il faut lutter au quotidien contre ces phénomènes.
Ouais, tout à fait. Et déjà, merci à Adama pour son témoignage, parce que ce qui renvoie, ça correspond exactement au message qu'on essaie de donner aux jeunes sur les différents quartiers où on intervient. Donc on a créé un collectif avec différentes associations du quartier des Friches, mais aussi avec les éducateurs de la ville de Coignières. Et on essaie d'apporter. Alors on est plusieurs chefs d'entreprise à mettre un petit peu d'argent de notre poche et un peu de temps de notre poche pour pouvoir pallier au manque en fait d'accompagnement. Les gamins qui traînent, c'est des gamins qui sont pas pris en charge. S'il n'y a pas d'adulte pour surveiller, pour encadrer, forcément on s'expose à ce genre de dérive. Alors c'est pas forcément une guerre de quartier comme on pourrait imaginer. Ouais. C'est important parce que c'est d'ado, on s'est toujours battu avec le collège d'à côté, mais ouais. Alors sans jamais savoir pourquoi on se battait contre ce collège-là, on se battait parce que c'était le collège d'à côté.
Yann, vous avez rencontré les jeunes des deux communes de Coignières et de Maurepas.
Oui, tout à fait.
Et vous avez essayé de les faire dialoguer.
Bien sûr, mais je suis pas tout seul. Hein. On est plusieurs adultes anciens des deux communes à s'être déplacés dans le quartier pour discuter avec les jeunes. Et là, on avait plus d'une centaine de jeunes rassemblés avec lesquels on a discuté comme si c'était nos enfants à nous, parce que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est nos petits frères. Ça, c'était le lendemain, le surlendemain. On a dit parce que ce que Adama raconte, l'envie de vengeance, c'est exactement les mots qu'on entendait. Et en fait, cette réflexion est tellement, quand on prend du recul, tellement incohérente. Parce qu'en effet, c'est pas une famille qui est touchée. C'est déjà deux familles directement, parce que la famille de la personne qui a tué, elle aussi, elle est touchée. Mais le quartier des deux, les communes des deux, tout le monde est touché. Ça embrasse tout le monde. Et depuis, pour éviter que les gamins soient dehors, on a une centaine de gamins pendant les vacances de là aux dernières vacances qui sont venus encadrés par des professionnels, mais aussi par des grands du quartier, de façon à donner des messages. Et ça s'arrête pas en fait. C'est pas parce que les vacances sont finies que voilà, on a des gros projets sur l'été. Et le tournage de la série Rix. Voilà, c'est excellent, c'est vraiment ce genre de projet. C'est dommage parce que c'est un peu le système de mettre un casse-vitesse devant une école une fois qu'un enfant est décédé. Ouais. C'est pas après qu'il faut intervenir, c'est avant. Il y a des années de ça, il y avait des clubs de prévention dans toutes les communes pour accompagner les jeunes qui ne sont pas dans la scolarité, qui ne sont pas dans les services jeunesse, qui sont en marge. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il faut reconstruire ça, il faut revenir là-dessus.
Adama, en 2022, selon les forces de l'ordre, 93 RICS ont été enregistrés à Paris et dans son agglomération, faisant 239 blessés, des morts aussi. On va continuer à avoir des morts dans nos banlieues, dans nos quartiers populaires et même dans nos zones rurales.
Malheureusement. Donc, comme le disait Yann, ce qui est important, c'est d'agir aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, il est primordial vraiment de faire des sensibilisations dans les établissements. Moi, j'en fais pas mal aujourd'hui en Ile-de-France et même partout en France, des sensibilisations autour de ce phénomène de Rix interquartier. Lorsque j'ai commencé, il y a 3 ans, je sensibilisais des lycéens et des troisièmes. Aujourd'hui, je parle à des classes de cinquième qui ont à peine 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces familles? Parce que moi, j'accompagne aujourd'hui ces familles. La question que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes suivis psychologiquement, ils me disent non. Donc nous, on a décidé avec notre association SADA, qui porte le nom de mon petit frère, de se former à l'accompagnement au deuil et aussi parler à ces jeunes-là, comme Yann l'a dit, ces jeunes qu'on appelle les invisibles, ceux qui fréquentent pas les structures, ceux qui traînent dans la rue. C'est eux, faut pas avoir peur d'aller les voir et d'aller leur parler.
La série documentaire Rix, c'est formidable. C'est formidable, bravo Adama, c'est disponible sur la plateforme France.tv. Votre travail aussi d'accompagnement, d'éducation, Yann Lamotte, à Maurepas, à travers le sport aussi, de discussion entre ces quartiers, entre ces banlieues, je pense aux deux villes de Coignières et Maurepas. Vous êtes des personnes indispensables dans la société, donc merci à vous, merci d'avoir témoigné. Merci. Je le rappelle, Adama Camara, votre témoignage, il est dans ce livre, aux éditions La Thèse, À vouloir venger mon frère, j'ai failli tout perdre, numéro 55.852, j'imagine que c'était votre numéro.
C'est mon numéro d'écrou quand je suis arrivé en détention, oui.
C'est derrière vous tout ça maintenant?
C'est derrière moi tout ça, et aujourd'hui c'est aussi pour faire prendre conscience aux jeunes que la prison, c'est pas ce qu'on voit sur TikTok, parce qu'aujourd'hui lorsqu'on voit certaines vidéos sur des détenus, les jeunes ils pensent que c'est facile, hein. Mais je leur dis, une vidéo ça dure une minute, ça reflète pas l'univers carcéral.
Et on a une grande pensée pour la famille de Tidiane, cette adolescente de 16 ans qui est décédée lundi dernier devant le lycée Guillaume Apollinaire de Thiers. Une grande pensée pour tous ses proches. Merci beaucoup Yann Lamotte, merci beaucoup Adama Camara. Passez un excellent dimanche. À bientôt.
Merci à
sur RTL. Merci à vous.
Merci, bon dimanche.
L'éducation nationale lance un nouveau plan pour tenter d'endiguer la baisse du niveau des élèves français. Retour de la dictée tous les jours à l'école, plus de maths et de français, du soutien scolaire chaque jour. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'école française est en danger? Je pose toutes ces questions à une institutrice, professeure des écoles. C'est dans quelques secondes sur RTL dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus
Dimanche. 13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Il faut améliorer le niveau des élèves français. C'est la volonté affirmée du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Pour ça, dictée quotidienne, 2 heures de lecture et d'écriture par jour, 1 heure de soutien hebdomadaire en français et en mathématiques pour les sixièmes. Les maths et le français doivent revenir dans nos classes. En tout cas, ces mesures sont critiquées par certains professeurs. C'est le cas de Lisa Kamen. Bonjour Lisa.
Bonjour Mohamed.
Lisa, vous êtes maîtresse d'élèves de CM2 à Paris. Vous appliquerez cette réforme dans votre classe à la rentrée prochaine?
Pour moi, il ne s'agit pas d'appliquer ou de ne pas appliquer une directive. C'est des choses qu'on fait déjà en classe, en réalité. Enfin, ça dépend des classes et c'est bien le problème. Ce n'est pas une directive qui va changer les pratiques des enseignants puisqu'on a ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Donc, le ministre peut prendre toutes les directives qu'il veut. Ça ne changera pas forcément la réalité de ce qui se passe dans les classes. La réalité est très, très hétérogène d'un endroit à l'autre, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, d'un quartier à l'autre.
Et Mélisa Kamen, un constat. 27% des élèves de 6e n'ont pas le niveau en français. Un enfant oui. de 6e a le niveau d'un enfant de CM1 aujourd'hui.
Oui.
Le niveau
oui.
d'un élève d'il y a 15 ans. Oui. C'est un constat qui fait froid dans le dos.
Oui, oui, on a perdu. Enfin, les emplois du temps des élèves sont beaucoup moins fournis dans les matières qu'on appellerait aujourd'hui les fondamentaux. Quand il arrive en 6e, il a reçu 600 heures de français en moins qu'un élève d'il y a une trentaine d'années.
Lisa Kamen, il y a oui. aussi une autre statistique qui est assez incroyable. En 87, un élève de CM2 faisait 10,7 erreurs par dictée. On est passé en 2021 à 19,4 fautes. Comment faire pour rehausser le niveau d'orthographe des élèves français?
D'abord, il faut s'assurer que les méthodes d'apprentissage de la lecture soient de bonnes méthodes. En France, on a ce que je rappelais tout à l'heure, on a la liberté pédagogique. On ne peut pas obliger des écoles ou des enseignants à utiliser telle ou telle méthode. C'est leur choix personnel. Donc la seule manière de faire en sorte que les enseignants utilisent une méthode efficace pour apprendre à lire et à écrire aux enfants, c'est la formation des enseignants. Moi, quand j'ai fait ma formation, il y a une vingtaine d'années, on faisait encore l'apologie des méthodes semi-globales. Et ces enseignants-là enseignent aujourd'hui.
C'est pas qu'un affaiblissement lié aux dictées, à l'orthographe des petits écoliers.
L'orthographe, en France, est porteuse de sens. Et quand on enseigne à des enfants à lire dans des textes qui n'ont pas de sens, on leur enlève tout le sens de la langue, que ce soit la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, etc. On leur enlève même le plaisir de venir à l'école, puisqu'on leur propose des textes qui n'ont pas de sens. Quand on remplace Jean de La Fontaine par Monsieur Crocodile a beaucoup faim, on enlève le sens aux enfants. Cette phrase, même le titre n'a pas de sens. Donc évidemment,
et ça entraîne une baisse du niveau, très clair. On devrait tous apprendre les fables de La Fontaine à l'école, comme c'était le cas il y a quelques années. Rappeler la place des classiques dans l'éducation nationale et aussi apprendre par cœur les tables de multiplication, ce qui n'est pas le cas. Oui. Et des statistiques oui. l'ont prouvé il y a quelques jours. Juste Lisa Kamen, je vais vous faire écouter le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Voici le plan orthographe qu'il a présenté le 10 janvier à l'Assemblée nationale.
Les recommandations cette semaine vont être adressées aux professeurs, aux formateurs et aux inspecteurs afin que soit instauré partout dans la foulée d'un rapport de l'inspection générale la pratique régulière de la dictée, la pratique quotidienne de la rédaction, le temps hebdomadaire d'écriture est certainement insuffisant en cours moyen et enfin la régularité du calcul mental, une autre conclusion de l'inspection générale.
Le ministre de l'Éducation qui parle de la rédaction, chaque jour, chaque semaine, lire au moins 2 textes longs, d'au moins 1000 mots chacun toutes les semaines, et écrire. On a oublié le sens de l'écriture, Lisa Kamen, chaque jour à l'école, selon vous, même avec vos élèves de CM2?
Oui, mais moi je suis entièrement d'accord avec tout ce que Monsieur Pape Ndiaye vient de dire là. C'est pas le problème. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là maquillent l'école de 2023 en école de la Troisième République et ont l'impression que ça va résoudre les problèmes. Ils parlent aussi de remettre la blouse aux enfants. Ils parlent même de remettre l'uniforme.
Oui.
L'uniforme n'a jamais été une obligation en France.
C'est pas une bonne idée.
C'est pas ça. Moi, j'ai rien du tout contre l'uniforme. Hein. Les élèves de ma classe portent une blouse. L'uniforme n'a jamais été une obligation en France. Donc déjà réinstaurer l'uniforme, c'est une erreur, puisque ça n'a jamais été une obligation. Ce qui était souvent dans les écoles, il y avait des sarraux, des blouses.
Vous savez très bien que parfois, dans les classes, dans les cours d'école, les élèves sont très durs entre eux.
Oui.
Avant, l'uniforme permettait d'éviter d'avoir des élèves qui ont des marques très très chères sur eux et d'autres qui ont des marques moins chères et avoir des insultes, du harcèlement, des méchancetés au quotidien dans la cour d'école, par exemple.
L'uniforme doit être une possibilité offerte à chaque école. Ça doit être quelque chose qui est du règlement de l'école. Ça ne doit pas être une obligation nationale.
Une question importante sur les parents. Tous les élèves de 6e auront une heure de plus de soutien ou d'approfondissement en français et en mathématiques à partir de septembre. Il s'agit là, on le dit, on le précise pour les auditeurs et les auditrices de Focus Dimanche sur RTL, d'un enseignement supplémentaire qui sera assuré par les professeurs des écoles en 6e. Les parents, Lisa Kamen, ont délaissé un petit peu leur rôle dans l'éducation nationale. J'ai discuté avec certains professeurs qui me disent, nous, on est professeurs jusqu'à 16h, 17h, 18h. Mais derrière, il y a un travail à faire. Et ce travail n'est plus effectué depuis 10, 15 ans, 20 ans par les parents. Vous partagez cet avis ?
Ce qui est vrai, c'est que les parents considèrent en France que l'école est, et c'est ce qu'on leur dit, hein, l'école est gratuite, laïque et obligatoire. Et en gros, ils n'ont pas le choix de l'école dans laquelle vont leurs enfants. Donc si on leur enlève ce choix, ils considèrent l'école comme une garderie. Quand il y a eu le confinement, il y a quelques années maintenant, je me suis aperçue, moi, que les parents, ce qu'ils me demandaient n'était pas le contenu de ce que j'allais enseigner à leurs enfants. Ce qu'ils voulaient, c'était que leurs enfants soient occupés puisque eux-mêmes avaient besoin de travailler. Et c'est un petit peu ça le problème. Ouais. C'est que, en fait, en dépossédant les parents du choix de l'école, du choix des programmes, etc., on les dépossède aussi de leurs responsabilités. Ils finissent par considérer l'école comme une garderie.
Je l'entends, même si je me souviens de ma maman qui me disait à chaque fois que je rentrais de l'école si j'avais fait mes devoirs et qui allait surveiller mon emploi du temps, mon agenda à l'époque et qui surveillait si j'avais fait tous mes devoirs à la fin de la journée.
Je ne connais pas votre âge, mais peut-être
30 ans.
L'école d'il y a 20 ans, c'est pas l'école d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, quand leurs enfants rentrent à la maison avec les leçons, ils n'y comprennent rien. Oui. Les mots en grammaire, par exemple, ce qui désigne autrefois un complément d'objet direct, ça change de nom quasiment chaque année dans les manuels.
Et le deuxième conseil que m'avait donné ma maman, c'est de lire. Lire quoi qu'il arrive, même des bandes dessinées, des romans graphiques. J'avais commencé par Tom Tom et Nana pour finir sur Albert Camus. Donc ne soyez pas inquiets, chers parents, si votre fils commence par des mangas, il finira sans doute sur des classiques. C'est une porte d'entrée pour lire des livres et c'est très bien. Merci à vous, Lisa Kamen. Merci d'avoir été avec nous sur RTL dans Focus Dimanche. Bon dimanche à vous, Lisa Kamen.
Merci et bon dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
En 2023, encore, l'homosexualité et le harcèlement tuent. À 13 ans, Lucas a mis fin à ses jours dans sa chambre le 7 janvier suite à des moqueries et des insultes liées à son orientation sexuelle. Marion avait elle aussi 13 ans, elle s'est suicidée. Sa maman, Nora Tiranne-Fraisse, est mon invitée dans Focus Dimanche. Bonjour Nora.
Bonjour.
Merci de venir nous raconter ce qui est arrivé à votre fille, Marion. Vous êtes également la présidente de l'association Marion, la main tendue, en studio avec nous, Elian Potier. Bonjour Elian.
Bonjour.
Elian, dans quelques secondes, je vais te donner la parole, mais Nora, avant ça, je voulais vous faire écouter le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Il s'est exprimé au Sénat quelques jours après la mort du petit Lucas.
Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis.
La voix qui tremble du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Elian, cette question, elle est un peu directe pour toi, mais tu aurais pu être le petit Lucas.
Oui, effectivement, en troisième, j'aurais pu être Lucas. J'ai été forcément obligé de me mettre à sa place et de me dire... dans cette solution, il n'y a aucune issue, donc pour être tranquille, c'était la seule issue possible pour lui de pouvoir être tranquille et de partir en paix.
Elian, dès le plus jeune âge, tu assumais ton homosexualité. Qu'est-ce que tu vivais à l'école ?
Déjà, il faut dire qu'en troisième, j'assumais pleinement mon homosexualité, donc je ne l'écriais pas... sur tous les toits, mais quand les questions venaient du style « t'as une copine ou pas ?» et moi je répondais très honnêtement que non, j'avais un copain et que oui, j'étais gay. Et puis rapidement, il y a eu des insultes, une fois, deux fois, trois fois, dans la cour, en classe, dans les toilettes, sur les réseaux sociaux, jusqu'au jour où, à la fin de mon année de troisième, on m'a ouvert la porte des toilettes et où on me filmait sur l'application Snapchat.
Tu n'as pas voulu le dire à tes parents ?
Non, non.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est pour tout le monde pareil. Quand on fait face à du harcèlement, moi j'avais l'impression que ça allait s'arrêter, que c'était juste des chamailleries et que, bah, à notre âge, la manière pour peut-être eux de communiquer et que ça allait pas plus loin. Sauf que ça s'est pas terminé, ça a continué, que ça allait de plus en plus fort, avec des propos de plus en plus choquants, mais dont j'étais pas du tout préparé à ça.
Nora, vous êtes la maman de Marion, qui s'est suicidée car elle était victime de harcèlement scolaire. Quand vous entendez les mots, les propos d'Elian, votre fille, elle les a vécus.
Oui, Marion l'a vécu aussi. Et ce que dit Elian, c'est que ses enfants, en fait, au début, pensent que ça va passer, que c'est des chamailleries. Moi, je me souviens que Marion me disait « Mais non, mais t'inquiète pas, maman, c'est pas grave. » Parce que moi, je savais pas ce que c'était le harcèlement. J'étais dans les chamailleries, les moqueries. Et un jour, ben, vous savez pas pourquoi, mais ils ont ce qu'on appelle le courage du désespoir. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux gens, vous savez, personne n'a envie de mourir, ni vous, ni moi. Mais on a juste envie d'arrêter de souffrir. Et quand on n'est pas armé, quand on ne sait pas comment faire, quand on ne trouve pas de solution, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Elian, mais oui. Et ben on se dit, pour être tranquille, c'est de partir. Et puis les enfants, si jeunes, n'ont pas la notion de la mort. Vous disiez, Lucas est décédé chez lui. Moi, ça m'a bouleversée parce que ça va faire 10 ans que Marion est partie. Je l'ai retrouvée à la maison. Je ne m'en remets pas. Ça va faire 10 ans. Et donc, il faut qu'on dise aux enfants que la vie, ou même aux adultes, que la vie, elle est difficile, elle est pleine d'épreuves, mais qu'ensemble, on peut y arriver, qu'on peut s'en sortir, quoi. Et moi, c'est mon regret le plus profond. C'est que, voilà, c'est que ces enfants, ils se disent pas, nous, adultes, on va les aider, on va les accompagner. Et voilà, c'est 1 million d'enfants qui souffrent chaque année. Et, pardon pour l'émotion, mais c'est trop dur, quoi.
1 enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, chaque jour à l'école, au collège. Nora, Marion, pourquoi elle a été victime d'harcèlement scolaire ?
Alors si je cherche le pourquoi, ça veut dire que je trouve des raisons. On peut trouver toutes les explications du monde, mais jamais d'excuses. Et Marion, au début, de ce qu'on sait aujourd'hui, quand elle est arrivée en 6e, ça commençait un peu, elle était mise de côté en CM2, mais c'était plus calme. En 6e, on lui disait qu'elle ressemblait à un garçon, qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle avait des grosses cuisses, de la grossophobie, pour mettre des termes. Puis on l'a traitée d'autiste en 5e. Elle avait des centres d'intérêt qui étaient différents. Elle voulait être architecte, voilà, de la danse, bon bref. Puis en 4e, et ben là, dès la rentrée, Marion m'a dit « J'aime pas cette classe, il y a du chahut. » Donc, jamais minimiser le chahut, qu'elle voulait changer de classe. Le jour de la photo de classe, on lui met les mains sous la jupe. C'est ses chaussures qu'on lui envoie, c'est des coups de compas, c'est des boules de neige dans la figure, c'est des rumeurs, c'est des gros mots, c'est la faire passer pour une PUTE. Et tout ça, on l'a su que dans sa lettre. Donc ce sont toutes ces violences, le fait d'être seule, de manger seule à la cantine. Et elle rentrait toujours avec le sourire, parce que nous, on rigolait beaucoup. Et je sais aujourd'hui, parce qu'après 10 ans de combat, que lorsque l'enfant ne dit plus rien, c'est que là, les choses sont extrêmement graves et qu'ils ont perdu espoir. Moi, je dis toujours aux parents, le jour où votre enfant vous dit qu'il va bien ou qu'il ne se passe plus rien, c'est là qu'il faut s'alerter. Donc voilà, c'est ces violences physiques, verbales. On l'a traité d'un télo, d'autiste. C'est terrible pour un enfant d'être seul parce qu'il faut comprendre que la construction à l'adolescence, c'est l'appartenance au groupe. Et je crois qu'elle a accepté à un moment que elle serait cet enfant qu'on n'aime pas.
C'est vous qui avez découvert Marion ?
Ouais.
Et elle vous a laissé une lettre. Elle disait quoi dans cette lettre ?
Alors, en fait, quand j'ai découvert Marion, moi, j'ai essayé de la sauver. Et j'ai demandé si Marion avait laissé une lettre. Et les gendarmes ont dit non, elle n'a pas laissé de lettre. Et j'ai dit non, mais elle a dû laisser une lettre. C'est pas possible. Elle m'a dit, mais non, c'est la veille de la Saint-Valentin. Ça doit être pour un chagrin d'amour. Et en fait, le lendemain matin, dans la presse, une amie m'apporte le journal Le Parisien où on découvre que Marion a laissé une lettre. Et dans cette lettre, elle disait à la 4e, c'est tous les autres. Et elle dit que voilà. Et elle dit tout. Et c'est là qu'est né mon combat. Je me suis dit donc, je savais qu'elle avait laissé une lettre. Et j'ai découvert le phénomène de harcèlement. Mais ma première, quand j'ai récupéré la lettre, grâce au maire de ma commune qui l'a demandé au commandant de gendarmerie, je me suis dit non, mais Non, mais c'est pas possible. Elle a pas mis fin à ses jours parce qu'on l'a traitée de salope. C'est incompréhensible. Mais en fait, parce qu'on savait pas ce qu'était le harcèlement. Et maintenant, je sais que quand on a 8 ans, 14 ans ou 17 ans, si ces insultes peuvent vous pousser au pire. Vraiment. Voilà. Elle nous a laissé une lettre. Elle a laissé pour moi un testament et je me, et du coup, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, j'ai une mission, quoi. Si j'ai pas sauvé ma fille, je ne veux pas que d'autres enfants meurent.
Il y avait quoi dans la lettre?
Eh bien, il y avait deux lettres, en fait. Il y a la lettre où elle explique à ce qu'elle vit, qu'on la traite de salope, de pute, de sale bolosse, de sans amis, qu'on va la tuer, etc. Et dans l'autre, eh ben, c'est une lettre vierge. Voilà, j'invite les gens, peut-être pas à la lire, mais dans mon livre, je raconte tout. Et tout ça, je l'ai découvert après, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, on découvre que ce qu'elle raconte dans sa lettre, on le retrouve grâce aux messages qu'elle recevait sur les réseaux sociaux. Des messages de menaces par SMS, des agressions dans les transports scolaires.
Et vous avez trois enfants, parce que y a
Marion. J'ai Marion, voilà. Mon petit qui est en sixième, qui est trop beau, trop chou. Et ma grande qui va avoir 19 ans dans quelques jours, qui est trop belle, trop chou. Voilà.
Elian, Marion, elle est passée à l'acte. Lucas est passé à l'acte. Est-ce que tu as eu des idées noires? Est-ce que tu as eu des idées suicidaires, toi aussi?
Alors, dans ce genre de situation, on est, je pense, obligé d'avoir des idées noires, de penser au pire. Parce qu'évidemment, quand personne n'est là pour nous, quand on pense que personne ne peut nous aider, quand on se sent seul, encore une fois, on est obligé de penser au pire et on pense que la seule solution, c'est de pouvoir mettre fin à ses jours. Évidemment que j'en ai eu. Est-ce que mes parents sont intervenus à temps ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis toujours là.
Tu en as parlé avec ton directeur d'établissement scolaire. Je crois savoir qu'il t'a dit, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. C'est ça?
Alors, c'est dans un contexte assez particulier parce que au mois de mai, ma mère a découvert que j'étais harcelée. Elle m'a dit la phrase suivante. Je sais qu'il y a quelque chose, dis-le-moi, t'as un problème à l'école. Et là, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit que j'étais pas normal, que j'étais gay et que c'était pas normal, que j'arrêtais pas d'avoir des insultes, des mots toute la journée. Et le lendemain, on a eu rendez-vous avec le CPE, ma prof principale et ma surveillante référente. Et de là, ils se sont dit choqués de la situation, qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Après ce rendez-vous, à la fin de ce rendez-vous, il s'est décidé que pour ma sécurité, étant donné que j'avais été agressé dans les toilettes, pour ma sécurité, j'avais l'autorisation d'aller dans les toilettes des filles pour pouvoir être tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une surveillante devant l'entrée des toilettes des filles. C'est ce que j'ai fait. Et au moment où je suis sorti, donc tout le monde était en rang, mon ancien chef d'établissement vient me voir et me dit... d'un ton assez agressif, c'est les toilettes des filles, tu n'as pas allé dans les toilettes des filles, les toilettes des garçons c'est en bas, tu n'es pas une fille. Et à la fois j'ai senti un sentiment plus que d'injustice, parce que j'ai clairement rien demandé, et en fait c'est juste ces équipes qui m'avaient proposé ça. Et d'un autre côté, j'étais plus dans mon état normal. C'est-à-dire que je suis arrivé en cours, je me suis mis à pleurer pour... la première fois de ma vie à l'école. Et j'ai dit à ma prof, désolé, mais je pars. Et entre-temps, j'ai appelé mon père qui est venu dans l'établissement. Juste avant qu'il arrive, le proviseur m'a pris dans son bureau et m'a demandé pourquoi j'étais en cet état. Et je lui ai dit que je me sentais pas du tout en sécurité, que c'était plus possible de rester là. Et il m'a répondu, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. C'est toujours très émouvant de raconter cette histoire parce que je ne l'oublierai jamais. Je sais que j'ai eu énormément de chance aujourd'hui d'être devant vous et de parler et de continuer à faire ce combat. Mais je sais aussi que ces phrases sont d'une douleur atroce. Et quand on en parle...
Tu gardes quelles séquelles aujourd'hui? Comment tu te sens? T'es souriant, t'es entré dans le studio, t'étais souriant. Comment tu te sens?
Je le suis toujours d'ailleurs. Même si c'est un sujet qui est... toujours aussi compliqué, même si quand on en parle, c'est toujours aussi avec autant d'émotions. Aujourd'hui, je me sens bien, mais je sais que la force qui me fait tenir aujourd'hui, malgré ma famille, mes amis Et la joie de vivre que j'ai, c'est de faire des interventions et d'intervenir dans les établissements. Et je pense que c'est quelque chose, du moins pour l'instant, que je ne pourrais pas arrêter, parce qu'on va dire que c'est un médicament pour moi.
C'est un beau médicament. Il fait du bien pour les autres, Alien, ce médicament.
J'espère.
Nora, une dernière question. Après le suicide de votre fille, vous avez créé l'association Marion La Main Tendue, au nom de votre fille. C'est un très beau nom. Et en 2022, vous avez été fortement sollicité. 250 demandes d'aide de prise en charge thérapeutique. Ça témoigne que l'harcèlement sévit encore beaucoup trop. Entre 200% et 300% d'augmentation de sollicitations de votre association.
Oui, c'est un pôle thérapeutique, parce que, comme disait Elian, c'est pas parce que c'est fini que ça s'arrête. C'est pas parce que ça s'arrête que c'est fini. C'est que ça laisse des traces à vie. Donc, on suit des familles. On a vu près de 13 000 enfants. C'est 8 000 appels téléphoniques. C'est 30 bénévoles qui comptent pas leurs heures, qui sont souvent des anciennes personnes victimes. Un conseil d'administration et des salariés qui sont très, très engagés. C'est très dur pour eux de recueillir la parole. C'est beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Et moi, je crois que la solution, hein, mais je peux me tromper, c'est ma réalité du terrain, c'est qu'il faut aller voir les enfants dès la maternelle, leur dire que les discriminations, bah, c'est interdit, mais que tu peux être petit, gros, peu importe qui tu aimes, que tu aimes un gars, qu'un gars, une fille, qu'un, on s'en fiche. Mais ça, c'est notre travail aussi d'éducateur. Voilà. Et il faut arrêter ce harcèlement, je ne sais pas comment, peut-être que si on nous entend, il faut qu'on continue à travailler comme on le fait, parce qu'Elian le dit, hein. On va dans les écoles, il y a le prix non harcèlement, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est pas que l'éducation nationale, hein, c'est vous, moi, en faisant cette émission, vous faites de la prévention. Ouais. Donc voilà, ma Marion, c'est un joli prénom, mais tous les Fatoumata, les Sarah, les Elian, les Nora, tous les prénoms de France sont beaux. Voilà.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
Vraiment, c'était merci. Très fort, très puissant.
Merci.
On ressent votre émotion et on la partage. Vraiment.
Merci.
Merci à vous deux, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Merci beaucoup. Ils sont sept otages françaises et français à dormir chaque nuit dans les prisons en Iran. Parmi eux, Benjamin Brière, qui faisait un tour du monde avec son van à cause de quelques photos prises en drone. Le pouvoir iranien l'a condamné pour espionnage. Sa sœur Blandine mène le combat quotidiennement pour permettre son retour en France. Elle est mon invitée sur RTL dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Ils appellent à l'aide. Les proches de Benjamin Brière sont inquiets. Le trentenaire est incarcéré en Iran depuis 2 ans et demi pour espionnage et propagande contre le régime. On lui reproche d'avoir pris des photographies de zones interdites avec un drone de loisir dans un parc naturel en Iran. Sa sœur, Blandine Brière, est mon invitée dans Focus Dimanche. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Blandine, Benjamin Brière fait partie de ces 7 otages retenus en Iran. Ils sont 7 françaises, français. Vous avez des nouvelles de Benjamin depuis quelques jours. C'est quand la dernière fois où vous avez parlé à Benjamin Brière, votre frère?
On arrive à l'avoir à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, en fonction du bon vouloir des gardes sur place et du fonctionnement de la prison, ce qui est une sacrée chance, ce qui n'est pas le cas de tous les otages. On peut se rendre compte de sa santé physique et morale qui se dégrade de plus en plus, surtout sur le point de vue moral où il se cache plus et il nous dit que c'est vraiment inhumain et insupportable.
Votre frère faisait un tour du monde, c'est ça, en van. Il a pris quelques photos en drone de l'Iran et on l'a accusé d'espionnage. Il a été condamné pour espionnage, c'est bien ça?
Il a été condamné, oui, à 8 ans de prison pour espionnage. Voilà, c'est ce qui nous a été dit après une parodie de procès, sans dossier, sans preuve, sans rien du tout. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est qualifié d'otage d'État aujourd'hui, comme les 6 autres Français là-bas. Donc tout ça se joue pas vraiment dans une cour de justice et on
politique.
En est conscient. Mais voilà, on a eu, c'est bien évidemment politique, oui.
Blandine Brière, quand vous entendez le compte-rendu du procès, quand vous entendez dire que votre frère est un espion, vous réagissez comment?
Bah, au début, enfin voilà, nous ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est sur cette histoire-là, malheureusement, et forcément au début c'est quelque chose de très difficile à entendre, de très lourd à digérer. Mais on connaît la politique de prise d'otages, on sait que l'Iran a déjà fonctionné comme ça, on l'a tout de suite analysé comme ça, et on sait que ce sont de fausses accusations.
Vous connaissez les conditions de vie de cette prison? On parle d'insalubrité, on parle de violence, on parle de viol dans cette prison. Il vous parle des conditions de détention?
Alors, il m'en parle comme il peut m'en parler quand on est enregistré, qu'on est menacé de plus avoir contact si on dit peut-être trop de choses. Ouais. Il est évidemment pas libre de me dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit. Et oui, c'est une prison, c'est insalubre, c'est une prison qui compte beaucoup de violences, beaucoup de traumatismes, beaucoup d'intimidation, beaucoup d'exécutions illégales. C'est des conditions vraiment inhumaines où il voit des gens partir à l'exécution, où il voit des gens se faire maltraité, ou lui, il est victime d'intimidation psychologique.
Il y a un an, il avait fait une grève de la faim de 35 jours. Comment il va? Est-ce qu'il a recommencé? Comment il se sent?
C'est très très dur pour lui de garder le moral, de rester combatif. Il a aucun réel élément sur lequel s'appuyer pour garder espoir. Donc ouais, une grève de la faim, c'est aussi le seul moyen pour lui de se battre, le seul moyen pour lui de dire qu'il existe à qui l'entendra, notamment enfin à notre gouvernement, ouais. au régime et aux gardes sur place qui sont directs avec lui. Et c'est sa façon de se battre et on la comprend, même si elle est très dangereuse et que on a bien compris qu'il fallait qu'il soit endurant et que Et solide dans sa tête comme physiquement. Et c'est vrai que voilà, on peut que le comprendre. C'est la seule chose qu'il peut faire pour se défendre et pour dire qu'il existe et qu'il est humain et qu'il mérite que justice soit faite, quoi, si on peut dire ça.
La France a jugé inacceptable la condamnation de Benjamin Brière. Vous dites, Blandine, que votre frère est un otage politique. Expliquez-nous. L'objectif pour l'Iran, c'est de libérer des Iraniens en France, c'est de faire pression sur la France.
Oui, enfin, clairement, la France est visée. On a 7 otages français sur une douzaine d'Européens connus aujourd'hui. On ne sait pas sur quels enjeux ça joue. Forcément, ouais. On a des idées, mais malheureusement, nous, famille lambda, enfin, c'est difficile de se prononcer là-dessus. On est juste victime de ça. On voit qu'il y a des fortes tensions entre nos pays. Ça se voit, ça se lit. Et malheureusement, on est victime de ça. Benjamin, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il est là. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Et enfin, c'est très difficile. On n'est personne pour analyser ça. Nous, la seule chose qu'on voit, c'est qu'on garde difficilement espoir, quoi.
Vous avez écrit, Blandine, à Emmanuel Macron, au président de la République. Vous lui avez dit quoi?
Encore plus de mobilisation. On sait que notre gouvernement se bat, met en place tout ce qui est possible pour libérer ses otages. Mais aujourd'hui, voilà, on voit bien que ça porte pas ses fruits. On n'est pas avec eux et forcément, on en demande plus. On demande aussi à l'Europe de se mobiliser, que cette mobilisation atteigne un peu, tous les pays concernés. Donc pourquoi pas élever la mobilisation au niveau européen et élever notre voix, à ce niveau-là, qu'on fasse tous front. Par rapport à ça, même si effectivement la France est particulièrement visée avec ces 7 otages.
Je sais que ça a été dur pour vous, Blandine, de parler aujourd'hui parce qu'il y a une situation qui est très tendue en Iran depuis la mort de Mahsa Amini. Le pouvoir est en difficulté réelle, la rue se révolte, on parle de révolution. Vous avez pris quand même la parole aujourd'hui pour rappeler le nom de Benjamin Brière et qu'il faut soutenir ce nom-là comme les 6 autres otages. Elle vous fait peur aussi, cette révolte en Iran?
Forcément, ça fait partie de nos peurs de s'exprimer là-dessus. Effectivement, on sait que ça peut jouer sur les négociations pour nos otages et on sait pas à quel point, on sait pas comment, enfin malheureusement on sait pas grand chose et on peut que les soutenir et demander à ce que la France les ramène à la maison, quoi.
Comment vous allez, Blandine? Comment vont vos parents? Comment va la famille Brière?
C'est très difficile, c'est très difficile après autant de temps. Les parents, c'est très difficile pour eux de suivre tout ça. Ils sont quand même assez dépassés par tout ce qui se passe et c'est normal, on va pas leur en vouloir pour ça. C'est un combat qui est très long, qui est très pesant, qui est très dur et surtout qui a pas de date de fin. On essaye de transmettre toute l'énergie qu'on a à Benjamin quand on l'a, mais c'est vrai que c'est difficile de garder la face et les idées au clair parce que c'est interminable et insoutenable.
Merci beaucoup, Blandine. Merci d'avoir témoigné dans Focus Dimanche sur RTL. On n'oublie pas Benjamin Brière et les autres otages français retenus en Iran. Et on espère que cette année 2023 qui vient de s'ouvrir permettra la libération de Benjamin Brière et qu'il pourra revenir auprès de vous et auprès de votre famille. Merci beaucoup, Blandine Brière.
Merci beaucoup.
En 2022, 2,3 millions de Français ont foulé les terres du Puy du Fou, en Vendée, un succès en France, mais aussi à l'étranger avec des spectacles en Espagne, en Chine et bientôt aux États-Unis. Mais c'est aussi désormais du cinéma. Vaincre ou mourir, c'est l'histoire du héros vendéen Charette. Ça sort en salle mercredi prochain. Où va s'arrêter le Puy du Fou? Je pose la question à son président, Nicolas Devilliers. C'est dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est un énorme succès français. C'est un parc qui collectionne les records de fréquentation et les récompenses internationales. 2,3 millions de visiteurs en 2022. C'est un record. Le Puy du Fou s'est imposé comme la référence des parcs à thème en France. Fondé en 1977 près d'Herbier en Vendée, le parc est connu pour ses spectacles historiques et se lance désormais dans le cinéma avec Vaincre ou mourir qui sort la semaine prochaine. Nicolas Devilliers, son président, est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, la saison 2023 débute le 8 avril pour le Puy du Fou, mais avant ça, présentez-nous ce projet Vaincre ou mourir qui sort mercredi prochain au cinéma, le premier film dans l'histoire, une production Puy du Fou.
Absolument, c'est notre première sortie de film au cinéma, ce qui est pour nous un événement parce que nous sommes, vous savez, des créateurs de spectacles vivants, c'est ça qui a fait le succès du Puy du Fou. Et pour autant, nous ne savons pas, nous ne connaissions pas l'univers du cinéma. Vaincre ou mourir, qui est le premier film que nous sortons, eh bien c'est un nouveau territoire d'expression artistique fabuleux pour nous, pour essayer de tenter cette aventure du cinéma qui en fait s'inspire d'un de nos spectacles.
Ce spectacle, c'est l'histoire de Charette, ce héros vendéen. Racontez-nous un peu le pitch, cette histoire qu'on peut découvrir, comme vous l'avez expliqué, dans un de vos spectacles qui devient un film.
Absolument, c'est un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache et ce spectacle est un tel succès qu'on s'est dit bah finalement pourquoi ne pas s'en inspirer pour faire un film parce que le personnage s'y prête bien et le personnage il s'appelle François Athanase Charette. C'est qui ce personnage qui est totalement inconnu des Français et encore plus des étrangers? Et bien c'est un homme qui a priori n'aurait jamais dû entrer dans l'histoire parce que il avait un destin au cœur de la Révolution française qui était plutôt celui de quelqu'un qui restait à part de tous les événements et puis finalement les paysans de Vendée vont venir le chercher et vont lui demander de prendre leur tête pour qu'il puisse les former à la guerre. Il va inventer la guérilla moderne pour, en chef rebelle, bien essayer de contrer la terreur qui fait rage un peu partout et notamment dans ce coin de France. Et donc Charette va prendre la tête d'une armée qui va devenir extrêmement nombreuse. Il va tenir tête à la terreur et il va réussir même à négocier pour obtenir un territoire indépendant. Et puis finalement, eh bien on verra qu'il fera peut-être quelques choix qui sont peut-être les mauvais choix et qui l'emmèneront devant le peloton d'exécution, mais la suite, naturellement, il faut la découvrir dans le film.
Une question importante, Nicolas Devilliers, pourquoi avoir décidé de se lancer dans la production audiovisuelle? Est-ce qu'il y a un objectif presque philosophique, c'est-à-dire de faire rayonner l'histoire du Puy du Fou, mais surtout l'histoire de la Vendée en dehors de son cadre habituel?
Vous savez, d'abord, le Puy du Fou, c'est l'histoire de France, donc c'est pas simplement l'histoire de la Vendée, c'est vraiment l'histoire de France, et finalement l'histoire de l'Europe aussi. Parfois, nos films seront des histoires inspirées de nos spectacles, mais parfois, nous pourrons proposer des histoires différentes qui ne seront pas forcément inspirées de nos spectacles. Et c'est ça l'objectif, c'est de raconter des nouvelles histoires sous des formes nouvelles. Donc finalement, selon la façon dont nous utilisons le légendaire français, finalement l'imaginaire collectif, eh bien on choisira d'aller ou bien au cinéma ou bien sur des scènes de spectacle.
Votre succès, Nicolas Devilliers, est critiqué. Je vous propose d'écouter Pauline Ducré, spécialiste de la Rome antique sur le parc Le Puy du Fou, qui selon elle déforme parfois l'histoire. C'était en novembre dernier chez nos confrères du HuffPost.
Le but, c'est de construire un discours politique. Philippe Devilliers est un homme politique qui lui-même, la dernière fois qu'il a décidé de ne pas se présenter aux élections présidentielles, a dit explicitement que s'il ne le faisait pas, c'est parce qu'il faisait passer beaucoup plus d'idées politiques dans son parc que par une campagne présidentielle. Et nous, ce qui nous dérange, c'est que après ça, la communication, qui est maintenant celle du parc, est « mais nous ne faisons pas d'histoire, nous faisons du divertissement ». Et nous, on répond « non, vous faites de la politique ». C'est la seule chose qui nous dérange, en fait.
Vous répondez quoi, Nicolas Devilliers, à certains qui vous critiquent en disant que le Puy du Fou, son succès s'explique aussi parfois par des déformations historiques?
Alors d'abord, je réponds que nous sommes des artistes, effectivement, nous ne sommes pas des historiens. Et dans toute œuvre artistique, il y a un point de vue, il y a une vision. Vous mettez 1000 poètes devant le même coucher de soleil, vous aurez 1000 poèmes différents. Donc cette dame qui s'exprime a une certaine vision des choses. Donc de toute façon, une œuvre, par définition, elle propose un regard, un point de vue. Nous cherchons plutôt la part de lumière qui marque l'histoire des hommes. Et c'est c'est ça qui nous permet peut-être de nous sentir un peu meilleurs lorsqu'on sort de nos spectacles.
Mais la question importante, je reviens sur cet extrait qu'on vient d'entendre. Vous répondez quoi à ces gens-là qui vous disent « Oui, mais le Puy du Fou, c'est super, mais c'est une arme politique pour mettre en avant la Vendée et pour critiquer un peu la République et critiquer un peu ce qui s'est passé en dehors des frontières de la Vendée ?»
Je pense que c'est une critique qui est un peu ridicule. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le film « Vaincre ou mourir » que nous sortons le 25 janvier, c'est une œuvre de réconciliation. Ça n'est pas une œuvre qui vise à rouvrir des plaies d'histoire. C'est une œuvre qui montre une belle histoire d'un héros qui se lève dans un drame. Tout le monde reconnaît l'histoire de Vaincre ou mourir, c'est-à-dire l'histoire de la terreur. Tout le monde le sait aujourd'hui, tous les historiens sérieux. Ensuite, sur le reste, eh bien non, encore une fois, le Puy du Fou est simplement un parc dans lequel on vient eh bien goûter l'imaginaire collectif français. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pense que finalement, ce qui est assez étonnant en France, c'est que nous sommes, nous les Français, les seuls à ne pas être fiers de notre patrimoine quand le monde entier nous l'envie. Tout le monde me dit à chaque fois, ah la France, c'est merveilleux, vous avez tellement de grands personnages, tellement de belles histoires à raconter, et voilà qu'en France, eh bien, on se mutile, on s'auto-mutile, vous voyez, sur notre patrimoine. Non, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de notre patrimoine.
Vous venez de me faire une passe décisive parfaite, Nicolas Devilliers, pour annoncer le succès du Puy du Fou à l'étranger, et ce succès, vous l'exportez. Il y a un spectacle désormais en Espagne, il y a même eu un spectacle en Chine, et en 2024, un spectacle aux États-Unis sur les Indiens.
Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être reconnu justement dans le monde entier par les professionnels du spectacle comme eh bien des gens assez, je sais pas, créatifs. En tout cas, on a inventé un modèle. Vous savez, le Puy du Fou, on a l'habitude de dire que c'est une forme de huitième art, c'est-à-dire que ça emprunte à la fois au cinéma, à la peinture, à la photographie, au ballet, bref, tout ça mis ensemble, ça crée une forme de spectacle qui n'a pas été inventée ailleurs. Et en effet, nous sommes très courtisés dans le monde pour créer des spectacles un peu partout, donc aux États-Unis notamment. Ça, c'est l'un des projets que nous avons à l'étranger, puisque nous travaillons sur plusieurs projets dans plusieurs pays, et l'objectif pour nous, c'est d'avoir deux autres parcs d'ici 2030, après celui de France, celui d'Espagne, puisque vous savez que nous avons un parc en Espagne,
à Tolède.
Donc nous aurons d'autres projets à annoncer dans les années qui viennent. Oui, à Tolède, exactement.
Il y avait des discussions avec le Moyen-Orient, des discussions aussi avec la Russie. J'imagine que depuis le début de la guerre en Ukraine, les discussions se sont terminées.
Oui, depuis très longtemps. Les discussions avec la Russie datent de 2014, et en fait nous avions abandonné ces discussions, et notamment par le fait que il était très difficile de travailler avec la Russie, qui était sous sanction déjà à l'époque. Et à partir de là, on a arrêté toute forme de coopération.
J'ai découvert un dernier élément, ça sera ma dernière question pour vous, Nicolas Devilliers. Cette liste d'attente des Puy Follet pour venir prendre du plaisir à la Ciné-Cénie. En clair, il y a combien d'acteurs, actrices qui viennent jouer dans cette Ciné-Cénie devant 15 000, 20 000 Français chaque soir?
Alors la Ciné-Cénie, c'est un peu particulier. Il y a effectivement 2600 acteurs en scène chaque soir de spectacle. Et ces spectacles, ils sont joués les vendredis et samedis soirs de l'été. Les vendredis et samedis soirs, vous avez raison, tout le monde est bénévole. C'est très particulier parce que ça vient de notre histoire. C'est-à-dire que le premier spectacle du Puy du Fou est un spectacle qui n'a pu naître que grâce au bénévolat. Et donc, nous avons gardé cette tradition du bénévolat qui a maintenant enflé, puisque nous sommes 4300 bénévoles pour 2600 acteurs en scène chaque soir. C'est une super production avec des moyens énormes qu'il faut venir découvrir. Il y a 13 000 spectateurs chaque soir. Et rien que ce spectacle à lui seul accueille 360 000 spectateurs chaque année.
C'est incroyable. Et combien de retombées économiques pour la région de la Vendée chaque année, Nicolas Devilliers, en un mot?
Eh ben, en un mot, c'est à peu près 400 millions d'euros de retombées pour la région, en dehors, bien sûr, de nos propres recettes. Donc, c'est assez considérable. Pour 1 euro dépensé au Puy du Fou, 3,20 euros dépensés dans la région.
Merci beaucoup, Nicolas Devilliers. On en profite pour rappeler que Charette, cet ancien officier de la Marine Royale, a été le personnage traité hier dans l'émission Entrée dans l'Histoire de 13h30 à 14h30 avec le magnifique, le formidable, le génial Laurent Deutsch. Et le podcast de l'émission est disponible, bien évidemment, sur rtl.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur RTL dans Focus Dimanche et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine, chaque dimanche à 13h sur RTL. Et tous les jours, vous retrouvez Marion Calais dans le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Bruno Solo. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show. RTL, il est...